Vous écoutez On lit pour vous.
Vieillir avec une lésion médulaire, un texte de Virginie Archambault, agente de recherche et de liaison, paru dans la revue Paraquad, numéro 170, été 2026. Pour mieux comprendre le vieillissement des personnes ayant une lésion médulaire, le site de la Fondation Christopher et Dana Reeve offre une foule d'informations pertinentes sur le sujet, informations sur lesquelles nous nous appuyons dans cet article. Le vieillissement est un processus universel, mais son déroulement varie d'une personne à l'autre selon des facteurs biologiques, sociaux et environnementaux. Lorsqu'une personne est lésée médulaire, ce processus peut être modifié ou accentué de différentes façons. On distingue généralement deux situations. Vieillir avec une lésion médulaire survenue tôt dans la vie ou vieillir avec une lésion médulaire survenue lorsqu'on l'on est déjà âgé. Si la lésion est survenue tôt dans la vie, une personne lésée médulaire depuis de nombreuses années peut constater un vieillissement plus rapide de son corps et être plus à risque de développer divers problèmes de santé. Parmi ceux-ci, l'arthrite ainsi que les douleurs aux épaules et aux poignets sont fréquentes. Elles sont souvent causées par la surutilisation de ses membres associée aux déplacements en fauteuil roulant et aux transferts répétés. La prévention repose notamment sur la pratique régulière d'exercice lorsque cela est possible, sur les mouvements passifs et sur une manipulation prudente des membres dépourvus de sensations. Le vieillissement accéléré peut également toucher plusieurs fonctions de l'organisme, santé cardiovasculaire, perte osseuse, douleurs chroniques, etc. Les personnes lésées médulaires sont aussi plus susceptibles de développer des plaies de pression en raison d'une circulation sanguine réduite et d'un manque de sensations qui empêchent de détecter rapidement un problème. Avec l'âge, la peau devient plus fine, plus sèche et plus fragile, ce qui exige une vigilance encore plus grande pour prévenir les plaies. Quand la lésion arrive après 65 ans, chez les personnes âgées de 65 ans et plus, les risques de chute augmentent considérablement en raison de la perte d'équilibre, du ralentissement des réflexes et d'autres facteurs liés au vieillissement. Cet état de fait justifiant que les chutes sont la première cause de lésions médulaires dans ce groupe d'âge. Lorsqu'une lésion médulaire survient tard dans la vie, la personne doit composer à la fois avec les complications de la lésion et avec les limitations déjà présentes en raison du vieillissement naturel. Cela représente un double défi, c'est-à-dire apprendre à vivre avec une nouvelle condition limitante tout en s'adaptant aux changements physiques liés à l'âge. Bien que chaque personne réagisse différemment, tant sur le plan physique que psychologique, la résilience peut être mise à l'épreuve puisque les limitations sont nouvelles et surviennent dans une période de la vie où l'état de santé est fragilisé. Comment bien vieillir avec une lésion médulaire? Même s'il existe plusieurs autres conditions secondaires, nous ne chercherons pas à toutes les présenter, car nous souhaitons plutôt aborder les stratégies permettant d'y faire face. En effet, malgré ces défis, il reste tout à fait possible de bien vieillir avec une lésion médulaire, à condition de reconnaître les changements qui apparaissent, de s'y préparer et d'obtenir un soutien adéquat. Pour limiter les effets du vieillissement et préserver la fonction musculo-squelettique, la pratique d'exercices de renforcement et d'équilibre peut être bénéfique. D'autres mesures peuvent également contribuer au maintien de l'autonomie lorsque cela est possible, comme réévaluer l'accessibilité de son logement, adapter ou remplacer ses aides techniques et maintenir une vie sociale active pour contrer l'isolement, particulièrement dans les dernières années de vie. Il peut aussi être utile de consulter un physiatre dès les premiers signes de vieillissement, ainsi qu'un pharmacien spécialisé en gériatrie, s'il vous est accessible, afin d'évaluer l'efficacité et la pertinence des médicaments. Il est important de bien se connaître. Pour bien vieillir avec une lésion médulaire, peu importe le moment où elle est survenue, il est essentiel de bien connaître ses propres « normaux », signes vitaux, fréquence et couleur de l'urine et des selles, état de la peau, respiration et sensations inhabituelles. Les suivis médicaux, le soutien psychologique ainsi que l'accès à la réadaptation sont quelques services contribuant au maintien de la santé globale. Une communication ouverte avec les professionnels, une surveillance attentive des médicaments et des discussions avec des conseillers en intégration ou autres intervenants peuvent faciliter le parcours et permettre à chaque personne de vivre une vie équilibrée malgré les défis liés au vieillissement ainsi qu'à la lésion médulaire. À noter que les éléments contenus dans ce texte ne doivent pas être utilisés en remplacement de l'avis de votre pharmacien. C'était « Vieillir avec une lésion médulaire », un texte de Virginie Archambault, paru dans la revue Paraquad, numéro 170, été 2026.
Une première ville québécoise reconnaît des droits aux arbres. Un texte de Morgane Laurie de la Presse canadienne, paru le 22 juin 2026 dans La Presse. Une petite ville, située à l'ouest de Montréal, a décidé de reconnaître officiellement les arbres comme des êtres vivants dotés de droits propres. La résolution adoptée le 9 juin 2026 par le Conseil municipal de Terrasse-Vaudreuil stipule que les arbres méritent d'être protégés et ont le droit de vivre, de grandir et de se régénérer. Le maire, Michel Bourdeau, explique que la municipalité a été incitée à agir après avoir visionné un film du cinéaste québécois André Desrochers. Il raconte que le film « Des arbres et des arts » a convaincu la population que les arbres sont des êtres vivants qui vivent, respirent et communiquent entre eux, tout comme les humains. L'arbre, c'est comme un être humain, dit M. Bourdeau. Il respire, il vit, il a besoin d'eau. Il nous protège de toutes sortes de choses. La présidente de l'Observatoire international des droits de la nature, Yenny Vega Cardenas, précise que Terrasse-Vaudreuil, dont la population s'élève à environ 2000 habitants, est devenue la première municipalité du Québec et du Canada à adhérer officiellement à la Déclaration universelle des droits de l'arbre. Ces trois articles fondamentaux stipulent que les arbres sont des êtres vivants et un bien commun de l'humanité, que la vie sur Terre dépend de leur existence et que les humains doivent agir dans un esprit de fraternité et de solidarité à leur égard. M. Bourdeau explique que cette nouvelle résolution implique que la Ville réexaminera ses règlements existants afin de garantir que les arbres soient protégés ou remplacés s'ils doivent être abattus. Il prévoit également mettre en œuvre des mesures visant à accroître davantage le couvert forestier, notamment en proposant des arbres aux habitants pour qu'ils les plantent. Les arbres constituent une véritable infrastructure verte, souligne-t-il. Ils contribuent à réduire les îlots de chaleur, à améliorer la qualité de l'air, à gérer les eaux pluviales et à protéger la biodiversité. Le maire mentionne que cette initiative avait été adoptée à l'unanimité par les conseillers municipaux et qu'elle semblait également bien accueillie par les citoyens. Il ne s'attend pas non plus à ce qu'elle crée des entraves au développement, même si cela tient en partie au fait que la ville ne dispose plus de terrains libres sur lesquels construire. Une ville prédestinée. Il estime que sa ville est tout naturellement prédestinée à devenir une ambassadrice des arbres. Elle est nichée au cœur des bois et ses habitants apprécient un mode de vie rural. La population est également pleinement consciente des dégâts causés par les phénomènes météorologiques extrêmes et le changement climatique, après avoir subi trois inondations ces dernières années. En matière de lutte contre le changement climatique, nos meilleurs alliés, ce sont les arbres, lance-t-il. Yenny Vega Cardenas explique que la Déclaration universelle des droits de l'arbre s'inscrit dans la même dynamique qui a conduit des territoires du monde entier, de la Nouvelle-Zélande à la Colombie, a accordé une personnalité juridique aux rivières et à d'autres espaces naturels. Au Québec, la MRC de Mingani et le Conseil Innu d'Equanitik ont accordé une personnalité juridique à la rivière Magpie en 2021. Mais pour Mme Vega Cardenas, cette déclaration sur les arbres revêt un caractère particulier car Elle reconnaît qu'un seul arbre constitue un écosystème à part entière, capable de fournir de l'ombre, de la nourriture et un habitat à d'autres espèces. Nous devons comprendre que les arbres ont une dignité et qu'ils possèdent des sens. Ils n'ont pas de sentiments, mais des sens. Ils peuvent ressentir et communiquer entre eux d'une manière très spécifique. C'était « Une première ville québécoise reconnaît des droits aux arbres », un texte de Morgane Laurie de La Presse canadienne, paru le 22 juin 2026 dans La Presse.
Services Internet en région, harcèlement téléphonique et relais privés. Un texte d'Alain McKenna, paru le 24 juin 2026 dans La Presse. Stéphane Hott, un lecteur, demande « Selon le gouvernement, nous devrions avoir l'Internet rapide en région à un coût raisonnable. » À Lac Supérieur, près de Tremblant, il coûte 120 $ par mois. Il y a 3 ans, cela coûtait 90 $ par mois. Est-ce raisonnable? Cette hausse de 30 % en 3 ans dépasse largement celle de l'inflation. La raison la plus simple est l'absence de concurrence dans plusieurs régions du Québec. Cela s'explique par la géographie du pays que les fournisseurs se partagent sans s'affronter directement. Déployer de la fibre optique ou entretenir des infrastructures dans des régions montagneuses et boisées coûte assez cher. En l'absence d'une concurrence directe, le fournisseur local dicte ses prix pour rentabiliser son investissement sans craindre de perdre sa clientèle. Pour le gouvernement, la notion de coût raisonnable se compare souvent aux tarifs exorbitants des anciens forfaits satellites d'autrefois. L'arrivée de nouvelles technologies, comme le réseau Starlink de SpaceX, a forcé une réévaluation des prix, mais ça demeure cher. Une solution pour faire baisser votre facture peut être de contacter régulièrement votre fournisseur et de mentionner les offres promotionnelles pour les nouveaux clients. Les agents du service à la clientèle possèdent souvent des rabais de rétention secrets pour conserver leurs abonnés. Martin Bouchard, un lecteur, demande. Nous recevons quantité d'appels chaque jour pour nous vendre quelque chose ou pour nous hameçonner. Hier seulement, nous en avons reçu une dizaine. Ça vient souvent du 514. J'habite dans le 418. Mais le numéro change chaque fois. Que faire? Des appels qui changent de numéro sont une ruse bien connue, appelée la falsification d'identité. Les fraudeurs programment des logiciels pour usurper des numéros locaux au hasard. Ils espèrent ainsi piquer votre curiosité et vous inciter à décrocher. La pire erreur consiste à répondre à ces appels. Ce geste confirme à leur système que votre ligne est active. Cette validation propulse immédiatement votre numéro au sommet de leur liste de rappels. Sur un téléphone intelligent, vous trouverez dans vos réglages des filtres pour bloquer les appels de numéros inconnus. Cette fonction redirige automatiquement les composeurs anonymes vers votre boîte vocale sans faire vibrer votre appareil. Vous pouvez également inscrire votre numéro sur la liste nationale de numéros de télécommunications exclus du CRTC. Cela bloque les télémarketeurs légitimes, mais pas les criminels. La vigilance reste votre meilleure armure. Carlos Manzoni da Silva, un lecteur, demande « Quelle est la différence entre le relais privé d'Apple et un VPN? » Le relais privé d'Apple est un réseau privé virtuel traditionnel, VPN, ont le même objectif, soit protéger votre vie privée, mais la méthode diffère. Un VPN agit comme un tunnel blindé qui chiffre le trafic Internet de votre appareil, qu'il s'agisse de vos applications, de vos jeux ou de votre navigateur Web. Certains services permettent de modifier l'emplacement géographique du serveur relais pour simuler une connexion à partir du pays de son choix. Le relais privé d'Apple utilise une architecture à double saut. Votre requête passe par un serveur d'Apple qui masque votre adresse IP, puis par un serveur tiers qui déchiffre le nom du site demandé. De cette façon, personne ne possède l'information complète sur votre identité et vos visites, même pas Apple. Il y a des limites. Le relais privé protège votre navigation sur Safari et non le trafic de vos autres applis. Il ne va pas non plus falsifier votre position pour débloquer du contenu géobloqué comme la diffusion en direct de sports professionnels. Si vous cherchez une protection durant les voyages, choisissez le VPN. Pour une navigation quotidienne sur Safari, le relais d'Apple suffit. C'était service Internet en région, harcèlement téléphonique et relais privé. Un texte d'Alain McKenna, paru le 24 juin 2026 dans La Presse.
Parce que c'était juste. Un texte de Télisson Aurélien, paru le 23 juin 2026 dans La Presse. Notre collaborateur pose un regard lumineux sur sa terre d'adoption et rend hommage à la générosité discrète des Québécois qui ont adouci son arrivée par simple souci de justice et d'humanité. La mémoire a ses mystères. Elle décide parfois seule de ce qu'elle conserve et de ce qu'elle préfère oublier. Certains contemplent le passé comme on regarde une vieille photo jaunie avec cette nostalgie d'un monde qu'on imagine plus simple, plus uniforme, plus rassurant. Moi, quand je pense au Québec, ce n'est pas cela qui me vient à l'esprit. Lorsque je pense au Québec, je me souviens d'autre chose. Je me souviens de visages. Je me souviens de portes ouvertes. Je me souviens de mains tendues. D'un peuple qui, bien souvent, a fait preuve d'une générosité dont il ne parle même pas. Il y a quelques années, je suis arrivé ici, avec ce que beaucoup d'immigrants transportent dans leur bagage. De l'espoir, certes, mais aussi des blessures invisibles. Je venais d'Haïti, un pays que le séisme du 12 janvier 2010 avait laissé défigurer. Plus de 200 000 morts, des centaines de milliers de blessés. Des familles éparpillées, des quartiers rayés de la carte, des vies en suspens. On parle souvent des chiffres, mais on oublie ce qu'ils dissimulent. Derrière eux, il y avait des êtres humains. j'étais l'un d'eux. À mon arrivée au Québec, tout était à réapprendre. Trouver un logement, comprendre les formalités, chercher un emploi, décoder des règles qui paraissent évidentes à ceux qui les connaissent depuis toujours. Les premiers mois d'une nouvelle vie ressemblent souvent à un immense labyrinthe où chaque porte exige une clé différente. Et puis, il y a eu les Québécois. Pas ceux dont on parle à la télévision, pas ceux qui occupent les tribunes ou les réseaux sociaux. Les autres, ceux qui sont nombreux, les ordinaires, ceux du quotidien, ceux qui n'écrivent pas l'histoire officielle, mais qui rendent la vie possible. Je me souviens d'une famille qui m'a accueilli avec une simplicité désarmante. Pas comme un projet humanitaire, pas comme une bonne action, encore moins comme un symbole. Comme une personne. On m'a aidé à comprendre certaines démarches. On m'a indiqué les bons endroits, les bonnes adresses. On m'a évité des erreurs. On m'a offert du temps, cette ressource si précieuse qu'elle vaut parfois plus que l'argent. Un jour, presque gêné par tant de bienveillance, j'ai posé une question. Pourquoi avez-vous fait tout cela pour moi? La réponse est venue sans hésitation. Parce que c'était juste. Pas parce que c'était noble, pas parce que c'était héroïque, pas parce que cela méritait une médaille. Parce que c'était juste. Depuis, cette phrase m'accompagne. Elle me revient souvent quand j'entends certains discours qui présentent l'étranger comme un problème, avant même de le voir comme un être humain. Bien sûr, il existe des gens qui regardent l'autre avec méfiance. Il existe des esprits étroits qui confondent parfois différence et menace. Aucune société n'y échappe complètement. Il serait naïf de prétendre que tout est parfait. Les préjugés existent. Certaines paroles blessent. Certains gestes aussi. Mais une société ne se juge pas seulement à ses fautes. Elle se juge aussi à sa capacité de les reconnaître et de les corriger. Quand, par exemple, des policiers à Montréal-Nord ont été suspendus pour des comportements jugés inacceptables, ce sont entre autres d'autres policiers qui ont dénoncé ces fautes. Ce détail compte. Il rappelle qu'il faut se méfier des généralisations. On ne résume pas un peuple à ses pires représentants, pas plus qu'on ne résume une institution à ses erreurs. Une majorité silencieuse continue de croire à la dignité de l'autre, même quand une minorité fait davantage de bruit. Mais ces gens-là ne sont pas le Québec que j'ai rencontré. Le Québec que j'ai rencontré est bien plus vaste. Il ressemble à cette enseignante qui reste quelques minutes après la classe pour aider un élève en difficulté. À cette bibliothécaire qui prend le temps d'expliquer. À ce voisin qui déneige l'entrée d'une personne âgée. À ce bénévole qui prépare le café avant l'arrivée des autres. À ce libraire qui vous parle d'un livre comme s'il vous offrait un cadeau. Le Québec que j'ai rencontré n'est pas obsédé par lui-même. Il est habité par une idée simple. On avance mieux quand on avance ensemble. C'est peut-être ce qui m'a le plus frappé ici. Les Québécois ne sont pas toujours ceux qui se racontent le mieux. Ils parlent volontiers de ce qui reste à améliorer, mais beaucoup moins de ce qu'ils ont réussi à bâtir. Pourtant, pour celui qui arrive d'ailleurs et qui prend le temps d'observer, il y a là quelque chose de remarquable. Une société qui a appris à se tenir debout. Une société qui connaît la fragilité parce qu'elle a dû lutter elle-même pour préserver sa langue, sa culture et sa place dans l'histoire. Peut-être est-ce pour cela que tant de gens, lorsqu'ils arrivent ici avec leurs propres blessures et leurs propres combats, trouvent malgré tout une place pour recommencer. Mon appartenance au Québec ne s'est pas déclarée d'un seul coup. Elle s'est construite peu à peu, dans la langue, dans les rencontres, dans les hivers traversés, dans les gestes reçus et rendus. On n'habite pas seulement un territoire, on apprend aussi une manière de vivre ensemble. Et malgré les débats, malgré les tensions qui traversent parfois l'actualité, malgré les voix qui cherchent à réduire une société entière à ses peurs les plus bruyantes, je continue de croire à ce Québec-là. Celui qui accueille sans s'effacer, sans se renier. Celui qui affirme son identité sans avoir besoin de rejeter celle des autres. Celui qui comprend qu'on peut aimer profondément le Québec tout en portant dans sa mémoire d'autres paysages, d'autres douleurs, d'autres fidélités. J'ai longtemps pensé qu'il pouvait y avoir deux souffles dans un même corps, celui du pays que l'on quitte et celui du pays que l'on adopte. Avec les années, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas d'une contradiction, c'était plutôt une richesse. Le Québec m'a appris cela. Voilà ce dont je me souviens. Non pas d'une couleur, non pas d'une origine, non pas d'une époque idéalisée. Je me souviens de gens qui ont choisi la générosité quand ils auraient pu choisir l'indifférence. Je me souviens de citoyens qui ont préféré l'accueil au soupçon. Je me souviens d'hommes et de femmes qui m'ont montré qu'une société se mesure moins à ce qu'elle proclame qu'à ce qu'elle fait lorsqu'un inconnu frappe à sa porte. Et quand je pense à eux aujourd'hui, une phrase me revient encore. La même, simple, discrète, immense, parce que c'était juste. C'était « Parce que c'était juste », un texte de Télisson Aurélien, paru le 23 juin 2026 dans La Presse.